Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à nouveau Antiquissimo. Pour vous informer, pour vous divertir avec tout ce qui concerne l'Antiquité, mais vous le savez. Je me trouve à nouveau, ou plutôt je vous retrouve à nouveau, au musée départemental d'Arles Antique, où je vous convie à faire ce qui m'a été proposé le samedi 18 octobre, à célébrer quelqu'un, à célébrer quelque chose. Il s'agissait des journées de l'architecture, et pour ce faire, la directrice du musée et toute son équipe avaient proposé des journées autour de ce musée bleu, non plus avec son contenu, mais plutôt son contenant, son bel écrin, son édifice, son architecture. Et pour souligner le caractère encore innovant de cette construction, ainsi que pour accompagner une exposition qui vient juste de se terminer début novembre, eh bien, j'étais conviée à une table ronde pour parler justement de pour réfléchir à ce que c'est qu'un musée, ce que c'est qu'un bâtiment qui abrite un musée. Alors l'exposition qui vient de se terminer s'appelait « Le musée bleu, une architecture couleur du temps » et elle se proposait dans le cadre de ces journées nationales de l'architecture eh bien, de réfléchir à celui, Henri Sirian, qui avait initié ce bâtiment, cet architecte talentueux dont nous allons parler aujourd'hui. Et ça, c'était pas prévu du tout. Cet architecte est malheureusement mort quelques jours avant cette table ronde où l'équipe du musée aurait rêvé de le convier. Donc la mort de cet architecte, Henri Sirian, je le rappelle, quelques jours auparavant, incitait encore plus à lui rendre cet hommage appuyé, cet hommage à un architecte franco-péruvien qui a mené de front à la fois une œuvre bâtie, des tas de choses qu'il a construites et qui pérennise son nom et son œuvre, et son travail d'enseignant, de chercheur. Donc, mort le 3 octobre dans notre pays, à l'âge de 88 ans, eh bien, il était marqué par des origines différentes, puisque il est péruvien d'origine, sa famille est italienne et lui-même donc s'était pris de passion pour la France. Alors dans cette émission qui va lui rendre hommage et qui va réfléchir à la notion de musée, de muséographie, eh bien dans un premier temps vous allez entendre Romy Wisch, qui est la directrice du musée que nous avons déjà plusieurs fois entendue dans Antiquissimo, qui a organisé ces journées et qui était là comme modératrice d'une table ronde où elle a distribué la parole entre plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je vous demanderai d'écouter François Gauven, architecte et inspecteur général honoraire des monuments historiques, et Stéphanie Quentin-Biancalani, conservatrice en chef du patrimoine et historienne de l'architecture. Ces deux personnes, François puis Stéphanie, qui vont parler, que vous allez entendre à tour de rôle, ont connu et étudier ce grand architecte et ont coutume de réfléchir à cette notion de musée comme un bâtiment. C'est comme un bâtiment qui est, a priori, en tout cas, c'est aujourd'hui la conception qu'on a des musées, destiné à évoluer. Donc, remise en perspective historique du musée et hommage à ce grand architecte Henri Sirian. Je vous demande d'écouter d'abord Romy Wisch, puis François Gauven, puis Stéphanie Quentin, et nous nous retrouverons après.
Le 3 octobre, c'est forcément quelque chose qui nous a beaucoup affecté, et en même temps, c'est vrai que ça nous a fait réaliser à quel point il était important de faire cette exposition quand on l'a faite. Parce que c'était l'occasion pour nous de vraiment nouer un dialogue avec lui et de réfléchir en fait comment lancer au sein du musée cette réflexion sur l'architecture, parce qu'on a un musée d'archéologie, vous le savez, et nous-mêmes on n'a pas souvent l'habitude de parler d'architecture, c'est pas normalement notre sujet. Et on s'est rendu compte au fil des années que quand même en fait il y avait un public qui venait pour voir cette architecture et un autre public qui n'était pas venu pour voir cette architecture, mais qui finalement étaient très intéressés et qu'on ne portait pas de discours pour accompagner ces questions. Donc voilà, c'est une première aujourd'hui pour ces journées de l'architecture, mais c'est quelque chose qu'on souhaite perdurer. Donc merci beaucoup à vous deux de nous aider dans cette perspective, vous les sachant sur le sujet. Nous, on est finalement les usagers du musée, ce qui reste une perspective bien sûr intéressante, mais on n'a pas cette approche historique de l'histoire de l'architecture. Alors j'en profite peut-être, ce que je vous propose, c'est que je vais réfléchir à quelques questions et bien sûr on pourra y répondre, et puis après bien sûr on prendra toutes vos questions pour compléter du coup la discussion. Et donc, peut-être la première question que je pourrais poser au vu des événements récents, c'est finalement, en fait, quelle sera la place accordée à Henri Siriani dans l'histoire de l'architecture contemporaine? Je ne sais pas qui je...
C'est une question difficile. Il y a plusieurs volets dans cette question. Il y a une personnalité. Pour ceux qui l'ont connu, Henri Siriani était une personnalité entière, passionnée, passionnante, mais extrêmement intransigeant, extrêmement ambitieux quand il s'agissait d'architecture. Il y a l'architecte, et on va y revenir, et il y a aussi l'enseignant, un très grand enseignant qui a formé des générations d'architectes, dont certains sont ici, au sein de UP7 et de UP8, qui a laissé sa marque sur des écoles d'architecture, au sein du groupe UNO notamment. Donc il y a ces trois volets, ces trois facettes d'Henri Siriani qui vont rester. La personnalité, j'ai eu la chance de la côtoyer un petit peu, c'était un homme entier, qui avait un certain sens de l'humour, hein. Tu me corriges, François, toi qui l'as mieux connu que moi, mais quand même un certain sens de l'humour, mais qui, quand il s'agissait d'architecture, allait être quand même absolu dans la défense de ses convictions et de ses idées. Et quant à l'architecte, eh ben, ça va rester aussi en accord avec cette personnalité, un professionnel extrêmement engagé dans une vision sociale de l'architecture qu'il a défendue. Donc il a eu une première partie de sa carrière au Pérou, hein, il a commencé extrêmement jeune, il arrive en France en 1964, mais il a déjà eu une carrière d'architecte, de logement, d'équipement public au Pérou. En 64, il arrive en France, il tombe amoureux de ce pays, il va vraiment adopter la France, il s'y installe et il rejoint très vite l'AUA, l'Atelier d'urbanisme et d'architecture en 1968, dont il va embrasser les combats politiques très à gauche, les combats sociaux, les combats architecturaux, à travers une vraie recherche architecturale sur le logement, on le verra peut-être après au sein de l'espace d'exposition. Il va beaucoup construire dans la banlieue parisienne, l'un des plus célèbres ensembles de logements, c'est celui de la Noiserie, à Noisy-le-Grand, qui va lui apporter une renommée dans les milieux architecturaux, dans la presse architecturale internationale, hein, dès ce moment-là. Et puis, c'est aussi l'architecte, au-delà de la question des logements et de la ville, c'est un architecte de musée. Voilà, vraiment, à travers le musée de l'art antique et puis l'historial de la Grande Guerre à Péronne, qui sont ses deux œuvres majeures, il va acquérir une vraie reconnaissance comme un architecte qui a contribué à, peut-être pas réinventer le musée, mais à créer des œuvres remarquables, vraiment majeures, en termes de qualité d'espace, en termes de qualité de fenêtres, en termes de qualité de lumière, sur la scène architecturale française de la seconde moitié du XXe siècle. Je laisse la parole.
Oui, je pense que tu as bien résumé. Moi, je n'ai pas de choses évidemment très profondes à dire sur la personnalité d'Henri Siriani, simplement quelques anecdotes. J'ai eu l'occasion de le croiser dans différents milieux. D'abord, à la Fondation Le Corbusier, où il était administrateur. Il a été administrateur pendant longtemps. Et alors, il ne venait pas toujours aux réunions de la Fondation, parce que son emploi du temps était assez chargé, y compris sur le plan international. Mais ce dont je me souviens, c'est que quand il était là, ça ne passait pas inaperçu. Donc déjà, il faut imaginer que les membres administrateurs de la Fondation Le Corbusier étaient eux-mêmes des intégristes de Le Corbusier, mais Siriani, au milieu des intégristes, l'était encore un peu plus que tous les autres. Et donc, évidemment, dès lors qu'il y avait à trouver une solution de compromis sur tel ou tel sujet, il ne fallait pas attendre que cette solution vienne d'Henri Siriani. Donc, c'est une anecdote, mais si je dis cela plus sérieusement, c'est pour montrer à quel point son travail, il ne s'en cachait pas, et d'ailleurs, j'ai peu pratiqué en tant qu'enseignant, mais la leçon de Le Corbusier était évidemment pour lui quelque chose d'absolument incontournable. C'était une Bible, une doxa, c'est qu'on peut le dire, hein, je crois que lui-même d'ailleurs le revendiquait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à un moment où on est, pour ce qui est de la gloire de Le Corbusier, dans un moment entre les années 1970 et les années 2000, disons, une période un petit peu de déclin de l'admiration du grand public, je n'en sais rien, mais en tout cas de la profession pour Le Corbusier, qui avait été une sorte de dieu vivant, sans doute jusqu'à sa mort en 1965, et puis encore un peu au-delà. Mais dans les années 1980, les courants grandissants du postmodernisme faisaient évidemment que la doctrine, quand même également radicale de Le Corbusier, tombait un petit peu en désuétude. Et Henri Siriani, contre vents et marées, maintenait, et il y a en ligne d'ailleurs, j'en voyais un l'année dernière, je ne l'ai pas revu, mais des propos qui étaient alors, en même temps sur le plan de la culture et de la pensée, de la construction d'une pensée propre, étaient tout à fait fascinants. Alors évidemment, je fais un tout petit biais sur l'enseignement. Il y avait deux architectes majeurs dans l'école donc, qui deviendra, enfin les deux UP donc, que tu as cités, qui deviendront l'école de Paris-Belleville. Et je me souviens toujours de Jean-Pierre Duport, qui était directeur de l'architecture, qui me disait « Mon pire moment, c'était quand il fallait que je mette d'accord Bernard Huet et Henri Siriani, qui incarnaient l'un et l'autre ces deux courants totalement irréconciliables, donc dans les années 80-90, de l'architecture. Bernard Huet, effectivement, qui était... Derrière, il y avait aussi, il faut bien l'imaginer, un substrat idéologique et politique. Chez Siriani, toujours. Siriani était très proche, on y reviendra naturellement, mais le commanditaire qui était proche du Parti communiste, faut être clair, Bernard Huet faisait partie de cette mouvance, évidemment, qui était très contestataire à l'égard de cette pensée idéologique. Et Duport me disait, je n'ai jamais, de toute ma carrière de directeur de l'architecture, réussi à les mettre tous les deux autour de la même table. Quand l'un était disponible, l'autre ne l'était pas, et réciproquement. Donc voilà, ce sont simplement quelques anecdotes, mais au-delà de l'anecdote, effectivement, une personnalité qui, avant que Le Corbusier ne revienne à la mode, parce qu'effectivement, à partir des années 2000, on va progressivement, avant les quelques polémiques de ces dernières années, bien sûr, mais on va progressivement réhabiliter à la fois la pensée, l'œuvre, jusqu'à aboutir évidemment à l'inscription il y a quelques années sur la liste des biens du patrimoine mondial d'une sélection importante de réalisations de Corbusier. Mais dans les années 80, c'était le contraire, et je pense effectivement que Siriani, quand je dis je pense, c'est une évidence, contre vents et marées, Siriani maintenait cap de façon inflexible, et il le fera quasiment jusqu'au bout, jusque dans ses derniers concours.
You gotta move, child. You gotta move. You may be.
les rapports entre architecture et musée. C'est un sujet, non mais il faut le dire, parce qu'autrement on n'arrive pas, évidemment, dans les années 1980, à partir de rien. Et si je le dis, c'est parce que dès les toutes premières années du 19e siècle, l'époque Napoléon Ier et les années qui vont suivre, la question de la construction d'un musée, de l'architecture d'un musée, est un sujet qui est un sujet majeur pour les architectes. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de musée à proprement parler avant la Révolution française. Il peut exister des salles d'exposition, il peut exister des présentations, mais construire l'architecture pour un musée, qui est une invention issue de la Révolution, le musée, c'est-à-dire ouvrir au peuple les merveilles de l'art qui généralement étaient, dans la plupart des temps, plutôt rendues confidentielles par le pouvoir politique, ou en tout cas la caste dominante, c'est un projet politique, le musée. C'est important de le rappeler parce que c'est aussi une question qui va, en ce moment, être en permanence au seuil de nos préoccupations. Et j'ai envie de dire qu'il y a quelques programmes majeurs, si étonnant que cela puisse paraître, qui marquent l'histoire de l'architecture dans la première moitié du 19e siècle, et si bizarre que ça puisse être, qui sont deux inventions issues de la Révolution française, ce sont les prisons et les musées. Ce sont deux choses qui n'existent pas jusqu'au 18e siècle. Faire un programme pour une prison, il y a des prisons naturellement, mais ce sont d'autres bâtiments qui sont utilisés pour l'incarcération, et les musées. Alors, le parallèle peut paraître un peu audacieux, mais il n'empêche que c'est une réflexion qui va animer tous les architectes des années 1820, 1830, 1840. Et comment peut-on faire un musée? Et je m'arrêterai là, mais au départ, l'idée est de faire un temple, en réalité. C'est le modèle, et Durand va le formaliser. Enfin, il y a toute une réflexion théorique autour de ce que doit être un programme de musée, avec des conceptions de monumentalité de l'entrée pour que le public puisse se retrouver très facilement, de symétrie, etc. etc. On n'a pas le temps de débattre. Donc il faut imaginer que du milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, enfin jusqu'aux années 1980, le programme de musée va être quelque chose qui va interroger. Parce que, évidemment, il y a, et nous y reviendrons, j'imagine, à la base plusieurs paradoxes, c'est vrai dans toute construction, mais peut-être encore plus dans un musée qu'ailleurs. Comment faire un temple avec toute sa monumentalité, alors que l'on sait que ce qu'il contient va être en permanente évolution? Parce que les collections s'enrichissent, parce qu'il faut sans cesse agrandir. Donc comment concilier un objet fini et monumental? Comment faire une image un peu stupide, mais quand on construit le Parthénon, on n'imagine pas qu'on va lui ajouter un bidet à droite, un bidet à gauche, et puis un petit clocher sur le dessus. Donc comment faire passer une architecture a priori figée dans le programme qui est celui au moment où il a été déterminé, et qui va avoir à évoluer au fur et à mesure? Et c'est exactement la question qui se pose à nous aujourd'hui, encore bien plus évidemment qu'à l'époque. Comment adapter un édifice, et on verra comment, précisément dans ce musée-ci, la question des extensions a été un sujet douloureux, parce qu'on en parlera, enfin on ne peut pas non plus totalement le mettre sous silence. Vous savez qu'il y a eu une très forte polémique lors de l'extension rendue nécessaire ici par la présentation du grand chaland qui avait été trouvé dans le Rhône, tout cela valant un conflit assez raide avec l'architecte, qui lui avait une théorie très précise sur la manière dont son projet pouvait évoluer. Donc ça, c'est une question. Et aujourd'hui encore, tous les matins, on trouve de nouvelles choses. Il faut faire évoluer les présentations. Or, si magnifique soit-elle, une présentation comme celle du musée ici est relativement figée, c'est péjoratif, mais en tout cas cristallisée dans un état, certes magnifique, mais pas forcément très adaptable aux besoins d'évolution, des parcours, des circuits, du public, etc. etc.
Il est essentiel ce rappel parce que c'est aussi à partir de cette réflexion historique, cette réflexion diachronique sur l'invention du musée au XIXe siècle que Siriani s'est situé en réfléchissant sur le parcours du musée de l'art antique et sur le plan. Effectivement, il y a beaucoup d'architectes, dont Siriani, qui reviennent sur cette jeunesse du musée au XIXe siècle dont tu parlais, dont les deux modèles sont le temple, bien sûr, mais aussi le palais. Le musée palais, parce que l'ancêtre du musée en tant que création architecturale au XIXe siècle, c'est la galerie privée d'exposition du palais, du duc, des aristocrates, des princes. Voilà, l'ancêtre du lieu d'exposition, c'est cette galerie privée. Donc il y a ces deux modèles qui vont présider à la conception du musée au XIXe siècle, le temple, le palais. Et le premier musée public, on peut dire, c'est quand même le Louvre, voilà, qui est un palais. Donc c'est aussi ce modèle-là qui va projeter, colorer l'invention architecturale du musée au XIXe siècle. Ce qui revient souvent dans la rhétorique des architectes modernes, c'est cette idée d'un musée-temple ou d'un musée-palais qui est un élément statique. Tu as cité Le Corbusier. Effectivement, à partir des années 1930, il y a cette opposition entre le musée-monument, qui serait finalement un conservatoire, un lieu où on va juste déposer les œuvres et il y a une forme d'inertie à travers ces termes, contre un musée qui serait un parcours, un cheminement, qui serait un espace dynamique. Et c'est bien sûr sur cette réflexion que s'est ancré Henri Siriani lorsqu'il a réfléchi au musée de l'art antique. En revenant sur des exemples historiques, François l'a cité, bien sûr, le musée à croissance illimitée de Le Corbusier, qui est conçu vraiment comme un cheminement, comme un parcours, comme une déambulation. Et puis aussi, un des exemples très célèbres, le musée du Guggenheim, de Fulbright Bright à New York, qui ouvre après la guerre et qui est aussi un exemple de spatialité dynamique en spirale circulaire. Henri Siriani, lui, optera pour la spirale triangulée ou triangulaire à Arles. Moi, je dirais que peut-être que si on essaie de résumer de manière forcément caricaturale quelques éléments clés dans l'évolution des musées qui deviennent un peu, qui arrivent à maturation dans les années 80-90, comme tu le disais, il y a cette notion de spatialité, de cheminement, de parcours, et puis il y a aussi cette notion de, je dirais, d'atomisation du programme du musée, qui, dès après la guerre, et dont on parlait aussi plutôt de la création des maisons de la culture, va se diversifier d'une manière exponentielle. C'est un lieu de conservation des œuvres, mais c'est aussi, ça va devenir un lieu de rencontre, de valorisation culturelle, et donc aux galeries permanentes, aux réserves, vont s'ajouter des salles de conférences, des salles de documentation, des boutiques, des restaurants, un café, etc. Et ça, de manière exponentielle jusqu'aux années 80, au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on va au musée, on ne va pas nécessairement voir des salles d'exposition. Moi, je travaille au Centre Pompidou, et c'est précisément un lieu de mixité culturelle, de diversité, où les gens viennent au centre, pas seulement pour voir des expositions, et pas seulement même pour pratiquer la culture, mais aussi pour échanger. C'est devenu un forum, c'est devenu un espace public à part entière où les gens se rencontrent et échangent. Et ça, c'est, je pense, une mutation extrêmement importante, cette ouverture sur le monde. Et puis aussi, peut-être, moi je rebondirais sur la dimension politique du musée que tu as cité, qui me semble fondamentale et qui devient dans les années 80, avec les lois de décentralisation et le transfert aux collectivités de plus de responsabilités, un élément essentiel où le musée devient un outil de développement culturel, un vrai outil, un levier de développement territorial. Les collectivités veulent avoir leur musée pour créer de la culture, pour fabriquer de la culture. Et ça, c'est aussi, je crois, propre aux années 90.
Alors parlons maintenant un petit peu de ce bâtiment inauguré le 25 mars 1995, ce fameux musée bleu qui a connu tellement de visiteurs en proposant une large vision de l'archéologie d'Arles, du néolithique à l'antiquité tardive, et conçu donc par cet architecte dont nous parlons depuis le début de l'émission, Henri Siriani. Il a été conçu par cet architecte comme un triangle aux façades d'un bleu azuré et dans un équilibre parfait. Vous vous souvenez qu'on a quitté la conception du 19e du musée monument pour aller vers un musée parcours. Et bien là, c'est exactement ce qui se trouve ici. C'est une véritable cité muséale avec un visiteur qui est invité à se promener librement dans le musée, exactement comme dans une ville. Alors il y a un patio central et les visiteurs autour de ce patio central peuvent prendre différentes voies, différents thèmes à leur guise, avec des espaces privilégiés qui sont ménagés. Et ainsi, le regard est tout de suite attiré vers la statue colossale d'Auguste, qui est le point phare de toutes les collections. Cette prise en compte du regard a conduit l'architecture à concevoir une passerelle au-dessus de la fosse aux mosaïques pour contempler tous les pavements de grande taille, ainsi de manière beaucoup plus aisée. Donc, plan triangulaire, trois activités essentielles avec une architecture qu'il a voulu évolutive, on en reparlera. Autour du patio se déploie donc l'aile des collections permanentes, l'aile de la culture dédiée au savoir et à l'échange avec une bibliothèque de conservation, un service des publics et des structures d'accueil des visiteurs, et symbolisée par la couleur et l'esprit du blanc, et une aile scientifique identifiée par la couleur rouge des murs, synonyme de force vive, autour des services photographiques, archéologiques, avec ateliers de restauration et les réserves. Et puis le vert, vert couleur du métal qui évoque la trace du temps. Donc oui, on a conçu ce musée d'une manière symétrique, triangulaire, aérée. Et voilà que, par les hasards d'une découverte faramineuse, c'est-à-dire ce chaland dont tout le monde a entendu parler et qui aujourd'hui trône majestueusement au sein du musée, eh bien il a fallu revoir tout ça. Et ça n'était pas forcément dans les plans et dans les goûts de notre architecte qui n'apprécierait certainement pas ce déséquilibre. Mais en avril 2011, il y a un chantier de relevage avec un bateau à sortir de l'eau et à reconstituer. En juillet 2011, les premiers tronçons du chaland arrivent à Grenoble dans un atelier spécialisé. En décembre 2011, la première pierre de l'extension du musée départemental est posée. En juin 2013, la partie arrière du chaland antique est remontée à Arles. Et le 4 octobre 2013, c'est l'inauguration de l'extension du musée avec au centre ce magnifique chaland qui aujourd'hui fait vraiment partie du décor. Paris énorme, projet et chantier pharaonique, mais Paris tenu. Et en effet, une fosse longue de plus de 30 mètres a été creusée dans la nouvelle aile du musée départemental Arlantique. Et sur l'exosquelette de métal, un socle de plusieurs tonnes sur lequel le bateau a été maintenu, a permis donc, on peut dire, pour l'éternité, je pense, à ce chaland de tenir bien sa place, tellement bien sa place qu'aujourd'hui on ne pourrait plus l'enlever puisque la salle a été faite pour lui et autour de lui. Donc on ne pourrait plus le retirer. Et je vais pour terminer, tout en sachant que peut-être un jour il y aurait d'autres extensions, d'autres évolutions, mais pour l'instant on s'en tient à celle-ci. Je vais terminer en citant Claude Sintès, qui était à l'époque le directeur de ce musée bleu, le conservateur de ce musée bleu, et qui était très ému. « C'est un grand moment d'émotion », a-t-il dit. « On a tout le travail mené depuis 3 ans qui sort d'un coup, mais pour cet assemblage qui semble très simple, ce sont des centaines d'heures de boulot pour que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. » Mais parfaitement, c'est le mot. À bientôt, au revoir.